Minette Lonti est une entrepreneure tech qui, depuis une douzaine d'années, est au cœur de multiples projets de vulgarisation par le numérique au Cameroun. En effet, cette diplômée en journalisme, communication et action publique internationale a lancé des plateformes qui ont fait date au Cameroun. On citera principalement le Mobile au Camer, qui est un site internet d'actualité sur l'univers du mobile. À côté, elle a initié d'autres projets tels que Camer Lyrics, Africa Lyrics ou encore Photo, une plateforme de mise en contact de photographes avec d'autres professionnels. Aujourd'hui, elle dirige une entreprise spécialisée dans la création de contenu, le développement d'applications numériques et le marketing digital. Minette est aussi membre du Wikimedian Cameroun User Group. Elle est ainsi à la manœuvre de plusieurs initiatives qui ont pour but de vulgariser localement l'encyclopédie en ligne. Ce que nous verrons n'est pas une mince affaire. Bienvenue dans ce 9e épisode de la saison 1 de N.com, le podcast numérique, des médias et de l'innovation au Cameroun. Minette Lonti est notre invitée aujourd'hui et sa mission est de nous aider à démêler les chevaux autour de la culture libre. Ainsi, avec elle, nous tâcherons de démystifier les logiciels libres, les licences Creative Commons et l'open source. Minette Lonti nous parlera aussi de Wikipédia et de ses satellites. Et enfin, plus globalement, des bénéfices de la culture libre pour notre pays. N'oubliez pas, une offre publicitaire a été mise en place sur le podcast. N'hésitez pas à me contacter si elle vous intéresse. Bonjour Minette Lonti, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois dans ce nouvel épisode de N.com, le podcast du numérique et des médias au Cameroun. Comment vas-tu?
Bonjour René, je vais très bien, merci. Merci à toi pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs du podcast N.com. Je suis extrêmement honorée, donc c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ton invité aujourd'hui.
D'où provient ton intérêt pour la culture libre?
Je commence à m'intéresser à des plateformes comme Wikipédia et Wikimedia Commons, où j'ai l'habitude de télécharger des images sans vraiment savoir en fait que c'est le résultat en fait de tout un mouvement qui s'appelle la culture libre. Donc je vais vers cette plateforme parce que je suis plus ou moins passionnée, en fait je suis intéressée par cette culture, cette nature même de cette plateforme-là qui permet l'échange, qui permet la modification et qui donne en fait à tout un chacun la possibilité de pouvoir télécharger une photo, utiliser un contenu ou de contribuer et se sans avoir de restrictions liées aux droits d'auteur. Donc c'est comme ça que je commence à utiliser des produits de la culture libre avant même de savoir vraiment ce que c'est que la culture libre et tout ce qu'il y a autour de ce mouvement.
On va revenir sur la question de Wikimedia un peu plus tard dans la discussion. Je suppose qu'avec le temps, tu t'es imprégné de tout ce concept de culture libre et qu'aujourd'hui, tu es une formatrice sur ces questions. Donc, je pense que j'ai le droit de te poser aujourd'hui la question de savoir quels sont les fondements de la culture libre.
Quand on parle de fondement de la culture libre, généralement, on ne peut pas ne pas faire mention de Richard Stallman, qui est le fondateur, en fait, de la culture, du mouvement du libre. C'est un mouvement social, en fait, qui promeut la liberté de modifier, d'exploiter des œuvres de l'esprit sous forme d'œuvres libres. Donc, c'est vraiment Richard Stallman qui met sur pied, qui met en place tout ce qui est aujourd'hui considéré comme les principes de la culture libre. En fait, le mouvement de culture libre vient, en fait, du mouvement du logiciel libre qui apparaît et se développe au milieu des années 80 et prend vraiment de l'ampleur dans les années 90. Donc c'est vraiment ça. À la base, c'est des informaticiens, c'est des personnes qui qui s'insurge en fait, qui s'oppose à la culture du copyright, qui veut que quand on a créé un logiciel, il nous appartienne et que pour que les autres puissent l'utiliser ou l'exploiter, ils doivent payer des montants parfois très élevés. Et après, même après avoir acquéré une licence, on n'a pas le droit de l'exploiter pleinement, de la redistribuer, d'en faire des copies, même de l'améliorer, par exemple, pour personnaliser un logiciel à ses besoins. Donc, c'est en fait les limites du copyright et des limites des logiciels propriétaires qui donnent la naissance à ce qu'on va appeler aujourd'hui le mouvement libre, qui commence vraiment avec le logiciel libre et la licence GPL GNU, qui est le tout premier logiciel libre qui est créé. Qui va être le point de départ en fait de ce mouvement porté, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord par les informaticiens qui veulent permettre le partage sans limite et sans restriction de la connaissance en fait.
Tu as parlé de logiciel libre et j'aimerais savoir, le logiciel libre, comment est-ce qu'il est pensé, élaboré et construit ?
Un logiciel libre en fait, c'est un logiciel qui est mis sur pied par des personnes qui ne souhaitent pas en garder la propriété. Les licences logicielles libres émanent de la licence de GNU, GPL, qui a été, comme je disais, introduite par Richard Stallman dans les années 80. Donc, en fait, c'est ça, c'est conçu sur le principe où moi, le propriétaire du logiciel, je ne m'accapare pas le logiciel. C'est-à-dire, je mets un logiciel et je l'ouvre, en fait. C'est-à-dire, le code source est connu. Tout le monde peut le consulter. Donc, une fois qu'on a le logiciel, on peut l'exécuter, c'est-à-dire l'installer sur son ordinateur. On peut le modifier si on souhaite en faire des améliorations. Et après, on peut le redistribuer. Donc, on peut permettre aux autres personnes de profiter en fait des améliorations qu'on a apportées à ce logiciel-là. Donc, c'est vraiment un travail où entre celui qui crée le logiciel et le produit final qu'on a devant nous, en fait, il y a eu la contribution d'une vingtaine, une dizaine, une centaine de personnes, d'autres qui ont apporté leurs connaissances, en fait. Donc, c'est ça, en fait, le fondement même du logiciel libre, c'est d'ouvrir un logiciel, c'est d'ouvrir un savoir, une œuvre, on va dire une œuvre de l'esprit qui, par nature, est protégée par l'auteur, mais pour laquelle l'auteur décide de libérer ses droits pour permettre à ce qu'un plus grand nombre de personnes en profitent et que le logiciel puisse être amélioré.
Tu as parlé de logiciel open source. Quelle est la différence entre un logiciel libre et un logiciel open source?
Oui, il y a une différence entre les deux termes. En général, quand on parle de logiciel libre, il est compris comme free software, c'est-à-dire un logiciel gratuit. Donc, un logiciel peut être gratuit, mais le code source n'est pas ouvert. En même temps, on peut avoir un logiciel qui est open source, mais qui n'est pas gratuit. Donc, open source, en fait, ça veut dire que le code est ouvert, est connu de tous, en fait. Donc, c'est globalement la définition basique de la différence entre le open source, qui est vraiment le code ouvert, et le logiciel libre qui compte de free software, c'est un logiciel qui à la base est gratuit.
Et j'estime qu'il y a une différence entre les logiciels libres et les logiciels sous licence commerciale.
Oh oui, tout à fait, tout à fait. Le contraire en fait de logiciel libre, c'est bien entendu le logiciel propriétaire, c'est-à-dire des logiciels qui sont placés sur licence commerciale. Et là, on va voir les plus connus, c'est des logiciels comme Microsoft, la suite Office. On a Windows qui est un logiciel, un système d'exploitation propriétaire. Donc, ça veut dire que le logiciel appartient à une entreprise commerciale. Pour avoir l'autorisation de l'exploiter, il faut payer une licence. Ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a payé la licence, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, par exemple, notre logiciel propriétaire très populaire, c'est Photoshop, c'est la suite Adobe. Quand tu as un logiciel Photoshop, tu n'as pas le droit de le prêter à un ami, de le réutiliser ou peut-être d'en modifier une composante. Non, le logiciel appartient à Adobe, le logiciel appartient à Windows ou à Microsoft. Donc là, on est vraiment limité et dans l'exploitation qu'on en fait, dans la manière de la distribuer, etc. Donc c'est vraiment ça la base c'est vraiment ça le principe du logiciel propriétaire parce qu'il est totalement protégé par les droits d'auteur et les droits d'auteur sont assez restrictifs, c'est-à-dire même pour imprimer un CD Microsoft ou un CD Windows, il faut l'autorisation explicite de l'entreprise en fait.
Tu as parlé de deux logiciels avec licence commerciale. Tu as parlé de Microsoft, je pense que tu parlais de Microsoft Office ou bien Windows. Et tu as aussi parlé de la suite Adobe. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de logiciel libre et de logiciels open source.
Oh oui, il existe une alternative libre à quasiment tous les logiciels qu'on utilise, c'est-à-dire quel que soit le logiciel qu'on veut utiliser, si on ne veut pas utiliser un logiciel propriétaire, on a une alternative libre qui s'offre à nous. Si je prends l'exemple de Photoshop, la meilleure alternative libre à Photoshop, c'est le logiciel GIMP. Donc ça s'écrit G-I-M-P, c'est pas ça, certains le lisent GIMP, d'autres le lisent GIMP. Quand on parle de la suite Office de Microsoft, l'alternative libre, c'est LibreOffice. Elle est gratuite et libre, comme on l'a dit. Après, il y a des logiciels, il y a des systèmes d'exploitation. Quand on parle de, par exemple, de Windows, on a de l'autre côté Linux. Et j'en passe. Quand on parle de la culture du libre, ce n'est pas uniquement l'informatique, même si c'est l'informatique qui l'a porté. Aujourd'hui, ça s'étend à la photographie, à l'art, à la musique. Donc, on peut publier ses œuvres, même musicales ou artistiques, sur licence libre.
Avec tout ce que tu viens de dire, le logiciel libre a beaucoup, beaucoup d'avantages quand on se situe dans un contexte qui est le nôtre, le contexte camerounais.
Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je pense que les personnes à revenus, les personnes à faible revenu sont des, je vais dire, les premiers, les plus grands bénéficiaires de la culture du livre parce que, comme on peut le constater, les logiciels, le propriétaire peuvent parfois coûter très cher. Et la nouvelle tendance depuis au cours des 5 à 10 dernières années, c'est les abonnements mensuels. Par exemple, avant, les logiciels, la plupart des logiciels dont certains on a mentionné tout à l'heure, que ce soit la suite Adobe ou la suite Office, on pouvait payer une licence et l'utiliser à l'infini, c'est-à-dire à vie. On avait une licence qu'on pouvait utiliser à vie sur un PC. Mais aujourd'hui, les entreprises ont changé de modèle. Désormais, c'est des abonnements mensuels, c'est des paiements récurrents où chaque mois il faut payer des sommes qui ne sont pas parfois à la portée de tout le monde. C'est pourquoi dans nos pays africains, les pays à faible revenu, on se rend compte que beaucoup de créatifs même utilisent tendance à utiliser des logiciels craqués parce que les versions légales, les versions autorisées parfois coûtent énormément cher. Donc c'est une opportunité en fait pour les pays pauvres d'avoir accès à un certain type de savoir, un certain type de solution sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Et même il y a une autre paramètre qui revient tout le temps quand on parle de logiciel libre, c'est également la protection de l'utilisateur. Les entreprises commerciales sont spécialisées dans la collecte de données personnelles pour les revendre ou pour les utiliser à des fins commerciales. Pourtant, dans les logiciels libres, on n'a personne en fait. C'est un logiciel qui est ouvert. Tout le monde peut consulter le code source. Tout le monde peut le modifier. Il n'y a pas de tracker. Il n'y a pas quelqu'un qui récupère nos informations personnelles pour les utiliser à des fins commerciales. Du coup, on se sent plus ou moins protégé. On se sent plus ou moins en sécurité quand on utilise un logiciel libre plutôt que lorsqu'on utilise un logiciel propriétaire. Même si parfois, il faut l'avouer que les logiciels propriétaires ont tendance à avoir des fonctionnalités avancées que les logiciels libres n'ont pas toujours, mais il y a quand même un travail d'amélioration, un travail de développement énorme qui est fait, qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'alternatives, les solutions libres sont de très bonnes, sont d'assez bonne qualité en fait, pour le prix que ça coûte, c'est-à-dire pour rien du tout qu'on a dépensé.
Nous sommes encore avec Minette Lonti et maintenant nous allons parler de Wikipédia. Minette, c'est quoi Wikipédia et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de ce projet?
Oui, Wikipédia c'est une encyclopédie libre et quand on parle de libre encore ici, on souligne la possibilité à tout le monde de la modifier, de l'enrichir et d'en exploiter le contenu. Wikipédia a été créé en 2001 par deux Américains, Jimmy Wales et Larry Sanger. Et en fait, le but de Wikipédia, c'est d'être une plateforme qui regroupe un peu tout le savoir mondial. C'est une plateforme multilingue et on va dire universelle. Il y a des versions dans la plupart des langues du monde et même des langues locales africaines. Donc, c'est vraiment une plateforme multilingue et universelle qui est accessible à toutes et qui regroupe, comme je disais tout à l'heure, un peu l'ensemble du savoir mondial sur toutes les thématiques qui peuvent exister. Wikipédia, c'est une encyclopédie qui est éditée ou bien qui est portée par une organisation à but non gouvernemental. Donc, ce n'est pas une entreprise commerciale qui s'appelle la Wikimedia Foundation. En plus de Wikipédia, la fondation Wikimedia en fait, a créé, dispose de nombreuses autres plateformes qui sont toutes toujours sur licence libre. On a par exemple Wikidata qui est un peu la base de connaissances de tous les projets Wiki. C'est une plateforme de gestion de données structurées. Ensuite, on a Wikicommons qui est la médiathèque de la fondation. Et c'est la plateforme sur laquelle on trouve des images et des vidéos et même des documents toujours placés sous licence libre. Et on a également Wikicode, on a le Wiktionnaire, etc. Donc, il y a énormément de plateformes disponible toujours sous licence libre qui permet d'accompagner, d'enrichir un peu tout ce que et de continuer un peu le travail que l'encyclopédie Wikipédia fait déjà depuis une vingtaine d'années.
Si j'ai bien compris, c'est un logiciel libre et ouvert, Wikipédia.
Non, Wikipédia n'est pas un logiciel. Wikipédia, c'est une encyclopédie libre. Donc, c'est l'encyclopédie qui est libre. Elle est développée sur la base d'un logiciel qui est libre, qu'on appelle MediaWiki. Donc, Wikipédia n'est pas un logiciel, c'est une plateforme. C'est-à-dire, le code source, le logiciel qui est utilisé sur laquelle la plateforme Wikipédia est développée, est en fait un logiciel libre que tout le monde peut télécharger et utiliser pour créer sa propre plateforme, sa propre encyclopédie, sa propre plateforme Wiki. Donc, c'est ça la nuance. Ce n'est pas un logiciel, c'est un site internet, c'est une plateforme, c'est une encyclopédie et c'est généralement référé comme étant le 5e site internet le plus visité dans le monde, en fait. Donc, c'est ça.
Minette, est-ce que tu peux nous dire sous quelle licence fonctionne Wikipédia?
L'encyclopédie Wikipédia fonctionne sous licence libre, plus particulièrement sur la licence Creative Commons CC by SA. Donc, c'est un sigle qui veut simplement dire que c'est une licence Creative Commons dans laquelle il faut mentionner l'auteur, la source, et qu'il faut share alike. SA, c'est pour share alike, qui veut dire partager sous la même licence que celle qu'on a sur laquelle on a utilisé le produit. Ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire que quand on prend un article sur Wikipédia, on a le droit de l'utiliser, donc, mais à condition de citer l'auteur et de la partager sur la même licence. Ça veut dire que si on prend un article sur Wikipédia, on ne peut pas l'utiliser à des fins commerciales. Et Creative Commons, en fait, une organisation qui a été créée en 2001, qui a pour but donc de créer des licences qui permettent aux propriétaires d'œuvres de l'esprit de renoncer aux droits d'auteur et de pouvoir libérer, comme on dit, leurs œuvres.
Si j'ai bien compris, tout le monde peut contribuer sur Wikipédia. Est-ce que ça ne pose pas un problème en termes de qualité et de pertinence des informations qu'on peut y retrouver?
Oui, la question de la qualité des contenus sur Wikipédia, c'est une question qui revient tout le temps dans les critiques qui sont faites à l'encyclopédie. La base même le principe, comme on a dit, le principe fondateur de la culture du libre, c'est la possibilité à tout un chacun de modifier. Donc, Wikipédia, bien sûr, tout le monde peut la modifier. Et du coup, on peut y retrouver du tout et n'importe quoi en même temps. C'est pour ça qu'en fait, depuis la création, il y a des rôles, il y a des personnes qu'on appelle généralement des Wikimédiens. Tous les contenus qui sont ajoutés sur Wikipédia doivent être vérifiables. C'est-à-dire, avant d'aller ajouter, par exemple, sur l'article Wikipédia d'une personnalité, qu'elle est née tel jour ou qu'elle est originaire de telle ou telle région, de tel pays, il faudrait qu'il y ait une source, en fait, une source primaire, c'est-à-dire et une source de qualité, bien évidemment, qui donne cette information. C'est-à-dire, Wikipédia ne repose pas sur des travaux inédits. Ça veut dire que si vous avez fait une découverte que vous êtes encore, vous avez découvert quelque chose qui n'a pas été documenté ou qui n'a pas été diffusé dans les médias, vous ne pouvez pas la mettre sur Wikipédia. Donc, Wikipédia est un peu comme une plateforme qui regroupe en fait les sources d'informations et qui permet que toutes les informations sur Wikipédia peuvent être vérifiées vers des ouvrages, vers des sites internet. Et on insiste toujours sur des sites internet de qualité. Mais après, on se rend tout le temps compte qu'il y a énormément de vandalisme qui se passe sur Wikipédia. Mais heureusement, il y a un travail de veille qui se fait par les administrateurs, par les Wikimédiens qui ne sont même pas administrateurs, mais qui viennent en fait corriger les erreurs ou le vandalisme que d'autres ont pu faire. Donc il y a vraiment un travail de suivi. Ce n'est pas une plateforme qui est abandonnée. Il y a un groupe de personnes qui sont des milliers à travers le monde qui chaque jour s'assurent que Wikipédia reste une source d'informations valide et riche en fait.
Il existe un groupe de Wikipédiens au Cameroun. En quoi consiste leur mission et leur action?
Oui, au Cameroun, depuis 2017, on a un user group, c'est comme ça qu'on l'appelle, et bon, ça s'appelle le Wikimedians of Cameroon User Group. C'est un groupe d'utilisateurs des projets Wikimedia, pas juste Wikipédia. Donc, dans le user group, on a des Wikipédiens, c'est-à-dire des personnes qui contribuent sur Wikimedia, mais on a également des personnes qui contribuent sur Wikidata, on a également des personnes qui contribuent sur Wikicommons. Par exemple, l'une des entités, parmi les utilisateurs les plus actifs au Cameroun, on a beaucoup de photographes. Ils n'ont jamais écrit d'articles, mais ils contribuent beaucoup d'images. Donc, on va pas les appeler les Wikipédiens, mais on forme tout ce qu'on appelle les Wikimédiens. Donc, on a un user group au Cameroun qui a été reconnu par la Fondation en 2017. Et au quotidien, notre action, c'est l'action des Wikimédiens, comme je disais, Wikimedia of Cameroun, dont je fais partie. C'est vraiment de promouvoir les projets Wikipédia au Cameroun, Wikimedia au Cameroun, que ce soit Wikipédia ou les autres projets frères. Donc, on organise généralement des activités, des ateliers de formation pour informer la communauté, informer les Camerounais sur comment contribuer sur Wikipédia, à quoi ça sert en fait, pourquoi il faut contribuer. Ensuite, on a des activités, on organise parfois des concours photos où on invite des photographes à participer au concours. On a l'un des plus populaires, c'est le concours Wikiloves Africa, où on a eu cette année, on a même le Cameroun a remporté un des prix qui était le prix de la meilleure collection photo. Et donc, on organise régulièrement des prix, des compétitions sur le plan local. Il y a des formations également. Et globalement, en tant qu'individu, en tant que Wikimédien, de manière individuelle, ce qu'on fait tous les jours, c'est que depuis chez nous, depuis notre lieu de travail, sur notre ordinateur, on essaie d'améliorer les contenus qui existent sur l'Afrique et sur le Cameroun, sur Wikipédia. Parce qu'en fait, ce n'est pas aux autres d'écrire pour nous. C'est à nous, même Africains, de venir, comment dire, raconter notre histoire. Parce que, comme on peut le constater aujourd'hui, le gap est énorme entre la quantité de contenu sur l'Amérique ou l'Occident qu'on peut trouver sur Wikipédia et la quantité de contenu qu'on trouve sur l'Afrique. Donc, notre travail, vraiment, en tant que Wikipédien, en tant que Wikimédien, c'est de vraiment apporter du contenu africain sur la plateforme, permettre que l'Afrique ne soit plus le continent, on va dire, invisible ou rempli de préjugés, mais que vraiment sur Wikipédia, qui est l'encyclopédie libre et la plateforme la plus, on va dire, la plus construite dans le monde, que quand on y vienne, on puisse trouver des informations vraies et vérifiables sur le continent africain et sur le Cameroun. Donc, c'est un peu ça notre travail, notre mission de tous les jours, améliorer la visibilité du Cameroun et des personnalités du Cameroun et de l'Afrique de manière générale sur les différents projets Wikimédia.
Et le groupe de Wikipédia au Cameroun, votre nombre, vous êtes à peu près combien?
Je pense qu'il y a une trentaine de membres qu'on va dire officiellement inscrits. Mais il y a aujourd'hui, je pense, plus d'une centaine de Wikimédiens. Il y a de plus en plus de Camerounais qui contribuent de manière régulière sur les projets. Donc déjà, on n'a pas besoin d'être regroupé dans le user group pour contribuer. Moi-même, j'ai contribué pendant 2 années avant de rejoindre le user group. Donc le côté associatif est vraiment facultatif. On peut contribuer sur Wikipédia étant au Cameroun sans être membre du Wikimedia of Cameroun User Group.
Tu parles d'une centaine de contributeurs sur Wikipédia qui sont installés au Cameroun. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le Cameroun est un endroit favorable au développement des projets de logiciels libres?
On fait face à plusieurs problèmes qui freinent plus ou moins l'expansion de la culture libre chez nous. Le premier problème, je dirais, c'est la pauvreté. Les Camerounais, en général, beaucoup ne comprennent pas qu'ils peuvent passer des heures, des journées entières à contribuer sur Wikipédia et que personne ne les paye. On a plusieurs fois fait des ateliers où on a des membres qui demandent qu'est-ce qu'on gagne à contribuer sur Wikipédia. Et quand on leur dit non, Wikipédia gratuit, on ne paye personne pour contribuer dessus, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est dit, mais vous gagnez quoi? Donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire. Et les gens sont, on va dire, ils sont découragés en fait. Ils ne veulent pas passer des heures à faire du travail bénévole. Donc il y a ce côté, la pauvreté qui est un frein. On a le développement technologique aussi. Il faut avouer que malgré le taux de pénétration d'Internet de plus en plus élevé au Cameroun qui croît chaque année, l'utilisation de l'outil Internet en Afrique et au Cameroun est encore un peu limitée à une certaine, on va dire, élite. La plupart des utilisateurs, des internautes camerounais sont sur mobile, sont des mobinautes. Ils sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, la première utilisation d'Internet pour nous au Cameroun, ça reste encore le divertissement, c'est les réseaux sociaux, c'est l'utilisation, le streaming vidéo, etc. Donc, on n'a pas encore vraiment la culture de l'utilisation d'Internet, en fait, à des fins vraiment de contribution, de partage de connaissances en général sur Internet. Donc, je vais déjà peut-être relever ces deux éléments, la pauvreté et le manque de compétences de manière générale.
Merci Bénédicte pour cet entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs?
Oui, j'ai un dernier mot. Je dirais aux auditeurs, la culture libre, vraiment, c'est une opportunité pour nous les Africains, pour nous les Camerounais. Donc, il est important pour nous déjà de l'embrasser, que ce soit en tant qu'utilisateur et également en tant que contributeur. Si on n'est pas informaticien et qu'on n'a pas peut-être les connaissances pour développer ou contribuer à l'amélioration des logiciels libres qui existent, on peut déjà, par exemple, sur des plateformes comme Wikipédia ou les autres projets Wikimedia, contribuer en fait au développement du mouvement de libre, au partage du savoir, en nous-mêmes en contribuant, et vraiment se dire que le partage, en fait, la connaissance, en fait, appartient à tout le monde, elle n'appartient à personne. Parce que parfois, on ne se rend vraiment pas compte, en fait, je vais dire, de la chance qu'on a aujourd'hui de se dire, je veux un livre, je peux l'avoir gratuitement. Je fais une matière à l'école, je vais sur Internet et je fais des recherches et je trouve toutes les réponses à mes questions et elles sont offertes gratuitement. On ne se rend pas compte en fait que ce n'est plus un luxe aujourd'hui, on arrive à se l'offrir, mais que derrière en fait il y a des gens qui se battent, que ça peut être même des Wikipédiens ou des personnes, des contributeurs, des journalistes, des web journalistes, des contributeurs bénévoles qui travaillent pour qu'on ait accès à cette connaissance-là. Pourquoi pas nous en fait? Pourquoi pas nous-mêmes créer des contenus qui vont permettre à quelqu'un proche de nous ou de l'autre côté du globe qui va se dire j'ai besoin d'une réponse à telle question et la trouver en se disant waouh, merci au Camerounais, merci à la personne qui a permis que cette information-là soit accessible pour moi gratuitement.
Nous sommes arrivés au terme de cet épisode de N.com. Nous remercions encore Minette Lontsi pour avoir accepté de partager avec nous ses connaissances. Merci aussi à vous, chers auditeurs, qui avez écouté cette émission. Le podcast est disponible sur les différentes plateformes et vous pouvez vous y abonner. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur du numérique, des médias et de l'innovation au Cameroun. À bientôt.